Dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Bonjour tout le monde et bienvenue dans Dialectique. C'est un plaisir de vous retrouver comme tous les vendredis à 13h sur RCN 90.7. Et aujourd'hui, dans Dialectique, nous allons parler de ballons, mais pas n'importe lesquels. Qui parmi vous n'a jamais rêvé de toucher le ciel, de toucher les étoiles, de tutoyer peut-être même le soleil, en tout cas de s'envoler dans les airs et de profiter d'un instant magique aérien? Eh bien, nous avons des personnes qui permettent de réaliser ce rêve-là. Et j'ai le plaisir de recevoir le président de l'association Andy Blue, Pascal Cochin. Comment vas-tu?
Très très bien, merci Lionel. Merci de m'accueillir dans ton émission.
C'est un plaisir de t'avoir ici aujourd'hui. Alors Andy Blue, pour ceux qui ne connaissent pas, pour nos auditeurs et auditrices, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est une association de loi 1901 qui a été créée pendant la période de la pandémie et qui, on a fait le pari en pleine, en octobre 2020, en septembre 2020, et ça s'est concrétisé en octobre, de rassembler 90 000 euros pour pouvoir racheter une montgolfière qui est unique au monde et qui est en Lorraine.
Alors, qu'est-ce qu'elle a d'unique, de particulier, cette montgolfière?
C'est sa nacelle. Sa nacelle permet à une personne qui est en fauteuil de pouvoir accéder sans avoir à quitter son propre fauteuil. Mmh. Et donc, que ce soit un fauteuil manuel ou électrique, on imagine un rectangle. Sur un des petits côtés, on n'a pas mis d'osier. On a mis une porte en plexiglas qui s'abaisse, qui va servir de rampe et qui permettra à la personne, soit avec son déambulateur, soit avec son fauteuil, de pouvoir accéder à la nacelle. Et quand on est assis dans une nacelle, on est en dessous du niveau de l'osier. Donc il y a une partie là encore de l'osier qui n'a pas été installée et qui permet d'avoir une vision à 180 degrés.
Est-ce que tu peux me décrire un peu le processus de recherche de fonds pour l'acquisition de cette montgolfière? Donc voilà, vous avez mis en place une viabilité de l'association hein, pendant la pandémie aussi. Ça, alors déjà, ça n'a pas dû être facile de motiver les troupes pendant la pandémie. On se rappelle de cette période où on était tous et toutes un peu dans le bas moralement.
Eh bien, sans doute de la volonté. En gros, on est trois, deux personnes en situation de handicap et moi, qui avons décidé de créer cette association. Et puis, moi, j'ai donné un coup de fil à ma bancaire, à la personne qui s'occupe de mon compte. Je lui ai demandé si elle était d'accord pour m'accompagner. Elle m'a dit oui, s'il y a un souci, vous inquiétez pas, on vous accompagnera. Et à partir de là, on a commencé les recherches sur Internet. Et puis à un moment donné, on a une entreprise du CAC 40 qui nous a dit « je suis d'accord pour vous donner 20 000 euros ». Ces 20 000 euros-là ont permis de dire « eh ben maintenant, c'est parti, on va pouvoir créer l'association », ce qu'on a fait le 20 octobre. Et puis ensuite, derrière, les choses se sont enchaînées. Ce qui est assez surprenant, c'est qu'à partir du moment où on parle de notre association, les yeux brillent. Parce que le projet est joli, hein. Faire voler des enfants qui sont atteints du cancer ou d'une maladie rare, ça fait rêver.
Et justement, comment vous collaborez avec vos partenaires pour offrir ces vols à ces enfants atteints du cancer et pour réaliser aussi des vols découvertes hein, pour des personnes en fauteuil?
Eh bien, c'est un petit peu comme notre rencontre. C'est le hasard, on rencontre des personnes, je me présente ou les membres du conseil d'administration se présentent et là, il y a un moment magique qui se passe et les gens ils disent... Mais votre association, on a envie d'en parler, on a envie de l'accompagner, on a envie de l'aider. Et c'est grâce à ça. Alors, les enfants, c'est deux associations qui nous les présentent. Hein, ce sont des associations de familles d'enfants qui sont atteints du cancer. Et puis autrement, eh ben, on a eu le Rotary Club, le Lions Club, on a l'ONPA, l'Office Nancéen des Personnes Âgées, qui a entendu parler de notre projet, qui a dit, nous, on vous finance un vol. Voilà. C'est des choses aussi simples que ça.
Donc ce sont des partenariats qui se font assez spontanément suite à des rencontres. Et pourquoi d'ailleurs c'était important pour vous d'axer tout ça autour de la montgolfière? Parce qu'on aurait pu se dire ça peut être un autre instrument.
C'est parce que moi je suivais cette montgolfière avec l'ancienne association qui la possédait. Je faisais le portage. Parce qu'il faut savoir que la nacelle pèse 250 kilos et que l'enveloppe qui est au-dessus, qui est remplie d'air, elle aussi fait 250 kilos. Donc il y a besoin de porteurs pour pouvoir rassembler tout ça. On ne va pas demander à une personne en situation de handicap de porter tout ça quand on est dans le champ et qu'on vient d'atterrir et qu'on est dans le champ. Et donc là, il y a toujours des porteurs. Je faisais partie de ceux-là. En 2018, quand il y a eu le rassemblement, le championnat de France à Lunéville, je m'occupais des questions de handicap et de l'accueil des personnes en situation de handicap pour leur vol ou le public qui était en situation de handicap. Donc, je continuais. Et puis, malheureusement, après ce championnat de France, il y a eu une grosse défection financière qui a fait que l'association a été déclarée en liquidation. Et donc, quand au mois de septembre 2020, les copains m'appellent pour souhaiter mon anniversaire, ils me disent, on va devoir démanteler. Et c'est à partir de ce moment-là que j'ai décidé de partir sur cette opération avec deux autres personnes, deux femmes en situation de handicap. Et puis ensuite, ça se déroule tranquillement. On prend des contacts avec des fondations, avec des organisations, avec des entreprises. On a réalisé un rescrit fiscal qui va faciliter le don. Et donc derrière, ça se fait naturellement.
Est-ce que tu peux nous raconter un peu, nous parler de la particularité des montgolfières? Parce que c'est pas quelque chose que beaucoup de gens ont l'habitude de fréquenter, donc c'est tout un monde.
Ah oui, alors déjà, moi je ne suis pas pilote, je ne suis que président de l'association. Les pilotes, les pilotes qui s'en occupent sont des pilotes qui sont aujourd'hui des pilotes qui sont... aussi des formateurs pour les futurs pilotes, qui sont des personnes qui ont des centaines d'heures derrière eux. En gros, quand on gonfle une montgolfière, on prend l'air qui est autour et on va le mettre à l'intérieur de l'enveloppe. Une fois qu'il est à l'intérieur de l'enveloppe, là, on va chauffer cet air-là, qui va lui permettre de prendre un petit peu de hauteur. Et là, il y a bizarrement, il y a un homme, il y a 2300 ans, Archimède, on ne l'a pas beaucoup rencontré, mais il a théorisé sur cette question-là. En gros, l'air qui va être déplacé par cette masse qui bouge, la montgolfière, c'est 37 mètres de haut. Donc, c'est une masse. Elle va, à un moment donné, cet air se glisser en dessous de la montgolfière et elle va assurer 90% de la portance. Et c'est comme ça qu'elle s'envole. Donc, en gros, quand on est en vol, il n'y a pas de bruit, à part au moment où on réchauffe un petit peu pour pouvoir... permettre de reprendre un petit peu de hauteur, mais le reste du temps, on peut avancer entre 8 et 10-12 km heure, et là, on voit des oiseaux, on voit des animaux sauvages, et puis on vit un petit rêve éveillé, comme ça dans les airs.
Ouais, là, tu es en train de nous faire rêver, là. Pascal, tu nous donnes envie de faire de la montgolfière. On va plus te lâcher. Alors, tu n'es pas venu seul, et puis c'est quelque chose qui m'a marqué dans la préparation de cette émission. Tu m'as envoyé un message, tu m'as dit, est-ce que je peux venir avec mon ami sans qui j'ai peur?
Oui. Alors, je vous présente... Baby Blue.
Pour ceux qui nous suivent en vidéo, parce que voilà, il y a l'émission, comme vous le savez, est aussi captée en vidéo. Donc, est-ce que tu peux décrire pour les auditeurs qui ne suivent pas en vidéo?
Donc, Baby Blue, c'est une peluche qui ressemble à un éléphant et qui est un petit peu blessée au niveau de l'oreille et qui est blessée aussi sur une des deux mains. Et donc, pour ceux qui verront, elle fait partie du staff. Donc, on accueille des enfants, j'ai dit tout à l'heure, on accueille des enfants qui sont atteints du cancer, donc qui ont été mis en relation deux associations, une qui est sur le Grand Nancy, Guerrière Loïs, et une qui est en Alsace, Aline Sourit à la vie. Et donc, quand l'enfant arrive avec ses parents, en gros, je prends contact avec lui et là, je vais lui confier Baby Blue. Avec une particularité, c'est que à Baby Blue, on peut tout raconter, il répète pas. Ah. Et donc ça, c'est vraiment impressionnant parce que j'ai accueilli des enfants qui avaient 5 ans et des jeunes filles qui avaient 16 ans. Je vous assure, même avec les deux filles, j'avais du mal à récupérer Baby Blue à la fin du vol.
Baby Blue, finalement, c'est la mascotte attachante.
Voilà, c'est ça. C'est un moyen, à un moment donné, parce que il y a une certaine appréhension au départ, on ne sait pas. J'ai même un jour un enfant qui au moment, juste tout était prêt, il n'y avait pas de souci, rien du tout, et juste au moment de monter dans la nacelle, il dit « Ah non, 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 moi je ne veux pas monter au ciel. Wow. » Et là, vous avez quelques secondes pour réagir, et je lui dis « Ah non, mais t'inquiète pas, tu ne montes pas au ciel. Toi, tu montes dans la nacelle, et c'est la nacelle qui monte au ciel. » Et là, le gamin me regarde, il me dit « Ah bon, bah alors je suis d'accord. » Et donc, il est monté dans la nacelle. Donc, on voit bien que là, on a besoin de baby blue, on a besoin de beaucoup d'attention pour que, à un moment donné, ce moment reste un moment merveilleux pour que ce soit les parents, les enfants. Et souvent, les parents, à la fin du vol, ils disent à l'enfant, ben, dis merci à Pascal. Et là, je regarde gentiment l'enfant et les parents et je dis non. L'enfant, lui, c'est vous qui allez lui dire merci à lui, parce que lui, de toute façon, il volait. Mais vous, peut-être que vous n'auriez pas volé. Et donc, il faut le remercier, parce que c'est grâce à lui si vous avez pu passer dans la montgolfière. Et je pense que c'est vraiment tout cet univers-là qu'on met en œuvre avec toute l'équipe. Hein. J'ai dit, il faut 6 personnes pour porter la nacelle. J'ai 2 véhicules qui suivent, un véhicule pour les personnes, un véhicule pour le matériel. Parce que la particularité d'une montgolfière, c'est quand elle s'envole, on ne sait pas où elle va atterrir. Mmh. Donc il faut qu'il y ait du personnel qui suive au sol pour récupérer les personnes et le matériel, et puis ramener tout ça à la base. Et donc pendant tout ce temps-là, eh ben, Baby Blue, il va assurer la protection et le réconfort du passager principal. C'est comme ça que moi je l'appelle, du passager principal, de manière à ce que tout se passe dans de bonnes conditions.
Et c'est fort ce que tu nous disais, comment se passe le rapport, le premier contact avec les jeunes et moins jeunes qui montent
Alors, c'est un moment que, pour l'instant, je me réserve. Après, derrière, je serai pas éternel, donc il y aura d'autres personnes qui prendront la suite. En gros, jusqu'au moment où on arrive à proximité de la nacelle et que le pilote prend la direction des choses, et dans ce cas-là, c'est lui qui a parti au lave. En plus de ça, on a deux pilotes d'exception. On a Vivien, qui vient plus que régulièrement. C'est quasiment lui qui assure tous nos vols. Et autrement, on a Serge. Mais, en gros, moi, je viens vers la famille qui arrive, qui sort de la voiture, du parking, et donc avec Baby Blue. Et donc là, moi, je sais le prénom de l'enfant. Donc je vais le prononcer et je vais voir lequel répond au prénom. Et à partir de là, je vais lui confier Baby Blue et je vais expliquer à ses frères et sœurs qui peuvent être là que on va vivre un moment qui est prévu pour leurs frères ou pour leurs sœurs, parce que c'est un moment magique, mais eux, ils vont pouvoir en bénéficier, et c'est une bonne chose qui leur offre ce moment-là. Et puis après, derrière, il va y avoir toute une phase d'explication, à la fois sur des règles de sécurité, mais de manière douce et tranquille, et à la fois sur comment va se passer le vol, comment on va pratiquer tout ça. Et puis ensuite, à un moment donné, on atterrira, et puis là, ben, on reviendra à la base, et puis il y aura un petit moment convivial.
Et sur quel secteur géographique se font les vols à
Alors,
peu près
aujourd'hui, on vole principalement depuis Brabois ou depuis Lunéville, l'aérodrome de Lunéville. Mais il y a une dizaine de points en Lorraine où on peut décoller et donc profiter du paysage. L'intérêt, c'est que donc les deux pilotes qui assurent bénévolement les vols sont aussi les pilotes professionnels qui ont leur propre coopérative et qui gère une coopérative pour faire des vols pour toute personne. Quand ils viennent pour Andy Blue, ils viennent bénévolement. Mmh. Et donc, on bénéficie à partir de là, à la fois de leur professionnalisme et à la fois de la structure qu'ils ont mis en place et qui peut nous permettre de décoller de plusieurs endroits en Lorraine.
Alors, Pascal, on parle de ces vols en montgolfière, on parle de cet enfant qui ne voulait pas rejoindre le ciel, mais juste toucher les étoiles, et c'est le titre du morceau de Benson Boone, In the Stars.
Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous, even though it's only church where we were going. Now, Sunday mornings I just sleep in. It's like I buried my faith with you. I'm screaming at a God I don't know if I believe in, 'cause I don't know what else I can do. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars at 6
hurt so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart and left the rest in pieces. Digging through your old birthday letters, a crumpled 20 still in the box. Heart and left the rest in peace. I'm still holding, holding, holding on. I'm still holding, holding, holding on. I'm still holding, holding, still holding on. I'm still, still holding on. I'm still holding on to everything that's dead and gone. I don't wanna say goodbye, 'cause this one means forever. Now you're in the stars, and 6 feet's never felt so far. Here I am alone between the heavens and the embers. Oh, it hurts so hard. For a million different reasons, you took the best of my heart.
Rest in peace. 13h, 14h, dialectique sur RCN, Lionel Courchinou.
Magnifique morceau de Benson Boone, In the Stars, sur RCN 90.7. On est dans Dialectique, je suis avec Pascal Cochin, président de l'association Andy Blue. Et pour reprendre les paroles de Benson Boone, Now you're in the sky, maintenant on est dans le ciel, et c'est notre sujet du jour, être dans le ciel avec des montgolfières, faire voler des enfants, accompagnés parfois de leurs parents, mais toujours accompagné par cette mascotte que ceux qui nous suivent en vidéo voient, Baby Blue. On a parlé de sa fonction de rassurer les enfants. Est-ce qu'il y a des appréhensions de la part des plus petits et des plus grands avant de monter dans la nacelle ?
La première appréhension dont il parle, c'est du vertige. Et souvent, les gens disent « Ah, mais moi, je ne peux pas monter parce que j'ai le vertige. » Alors, il faut savoir que quand on ne touche pas le sol, eh ben, on n'a pas le vertige, en fin de compte. Alors, on peut avoir le mal de l'air, comme il existe le mal de mer, mais on peut pas avoir le vertige. Et donc, déjà, c'est une appréhension qu'il faut supprimer. Et puis ensuite, j'ai envie de dire, c'est comme dans un jeu collectif, foot, rugby, etc. Chacun a sa place. Mmh. C'est-à-dire que il y a un pilote qui va être là, qui va donner un certain nombre de consignes très claires. Les personnes vont tout doucement rentrer dans l'équipe. Et donc, ils vont avoir des fonctions pour nous simples, mais pour elles et importantes. Ils vont tenir la bouche de manière à permettre. Ensuite, à un moment donné, ils vont voir qu'on allume, ils vont être là. On va leur donner des consignes simples. Et tout doucement, ils rentrent dans leur vol. Et puis, une fois qu'ils ont vu les gestes professionnels du pilote et des personnes qui sont tout autour, eh ben, ils sont tranquillisés et le vol se passe dans de bonnes conditions.
Et vous, pour Andy Blue, quels sont les principaux défis en termes d'accessibilité, de sécurité des vols? Comment vous y faites face?
Alors ça, c'est le travail des pilotes qui sont, comme je disais tout à l'heure, instructeurs de notre fédération. Mais au-delà de ça, on peut très bien se retrouver sur un rassemblement, puisqu'on assiste à des rassemblements, que ce soit Chamblay, à Metz ou dans d'autres endroits. Mais et voir les autres montgolfières s'envoler et nous rester au sol. Du fait que nous, on va devoir atterrir debout, Vous imaginez bien que si la personne est dans un fauteuil électrique, elle ne peut pas avoir les roues en l'air. Il faut obligatoirement que la montgolfière se pose. Donc il va y avoir toute une technique qui va être mise en œuvre par le pilote de manière à ralentir. J'ai dit tout à l'heure, 600 kilos lancés à 8-10 km heure, ça ne s'arrête pas instantanément. Donc il va y avoir toute une technique qui va être mise en œuvre de manière à se poser délicatement. Et puis là, on va sortir sur l'ordre du pilote le passager principal. Pendant ce temps-là, les autres vont maintenir la montgolfière au sol. Et puis ensuite, on va la coucher. Et là, on pourra sortir le reste. Mmh. Et puis après, il y a encore tout un tas de jeux. Parce que quand on a des enfants de 4-5 ans qu'on peut porter, eh ben, on va jouer autour pour que même au moment où on est en train de rassembler toute cette enveloppe à l'intérieur du sac, ils vont nous aider. On va jouer pour que ça reste un bon moment. Mmh. Voilà.
Il y a cette question du handicap qui est vraiment au cœur de votre association. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Alors, ce qui est important avec la... Alors d'ailleurs, on en parle dans les écoles, on en parlera peut-être un petit peu tout à l'heure, mais ce qui est important dans le handicap, moi je cherche pas à savoir quel type de handicap les personnes portent. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quelles sont les difficultés qu'elles rencontrent. Et comment, alors nous les adultes, on dit ça, on dit on compense, mais comment nous, on va accompagner pour que le moment soit magique. Et donc du coup, moi, la relation que je vais avoir avec les parents ou avec l'enfant, c'est de savoir, est-ce que tu peux rester debout pendant une demi-heure, trois quarts d'heure? Est-ce que tu ne seras pas trop fatigué? Est-ce que ça te plaît? Qu'est-ce que tu as envie, etc. On va être autour de ces problèmes-là, pas de se dire ah t'as ça et etc. Et je vois même dans les interventions avec dans les écoles, quand on aborde la question du handicap, les enfants restent très naturels avec cette notion-là, en disant ben moi j'aide mon tonton, moi j'aide mon papy, il a du mal à marcher etc. Et donc on voit bien, ou même quand il y a des enfants dans la classe, eh ben ils s'accompagnent mutuellement et on voit qu'ils ont cassé un certain nombre de préjugés que nous, on peut avoir, nous les adultes, par rapport à tout ça. Et nous, la seule chose, c'est qu'on va fluidifier, c'est le travail qu'on mène avec l'ensemble de l'équipe, on va fluidifier tout ça et puis permettre que ça reste un moment magique.
Et donc là, c'est vraiment tout le travail aussi que vous faites auprès des écoles, même si, comme tu le disais, finalement, les enfants n'ont pas beaucoup de préjugés ou de... Enfin, il est assez simple ce travail auprès des enfants, le fait de vulgariser, de parler librement du handicap.
Oui, c'est simple à partir du moment où c'est simple dans notre tête. Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut se dire. C'est-à-dire que au départ, on vient et on va leur parler d'aérostation. On va leur expliquer que depuis toujours, alors à l'époque c'était Icare avec la légende, et puis après et derrière il y a eu tout un tas d'autres choses, et puis on va parler des frères montgolfiers, des expériences ratées, etc. Donc c'est même une école de la vie. Et puis à un moment donné, dans les classes où moi j'interviens, il y a toujours des mots autour de l'entraide, il y a toujours des mots autour de faut recommencer quand on rate quelque chose, etc. Moi je vais m'appuyer sur l'ensemble du travail qui est réalisé par les maîtresses ou les maîtres pour qu'à un moment donné on fasse le lien. Et donc du coup, quand on aborde la question du handicap, puisque ils voient bien que les enfants ont pas de cheveux, ou que les enfants ont l'air fatigués, ou que... Et puis moi, je leur dis. Même quand je parle de la notion de cancer, les enfants, ils disent « Ah ben moi, j'ai tata qui a eu le cancer, ou j'ai papy, ou etc. » Donc, on voit bien qu'ils en parlent tranquillement, et à partir de là, on va échanger autour de ces questions-là. Et quand il y a un enfant qui est en fauteuil, eh ben, on a un parrain et une marraine. On a... qui sont... Sonia Eichel, qui est championne de France, championne d'Europe, championne du monde, et qui a représenté la France aux Jeux Paralympiques, et j'espère qu'elle représentera la France aux prochains Jeux à Paris, et qui fait de la boccia, qui peut venir et accompagner les enfants. Et puis on a Baptiste, qui est... alors moi, je travaille avec son papa, et Baptiste, aujourd'hui, c'est un jeune homme qui a 20 et quelques années, qui a fait un AVC à 14 ans, et qui a dû, à 14 ans et quelques, réapprendre à parler et à marcher. Et donc, quand à un moment donné, on a échangé avec Baptiste, il m'a dit « Moi, j'ai vu Théo Curin, Je me suis dit, si lui, il est capable de le faire, moi, je suis capable de le faire. Mmh. Et c'est ces aimants-là que moi, je transmets aux enfants en disant, c'est toujours possible. Mmh. Allons-y.
Mmh. Autre sujet aussi qui est au cœur de vos préoccupations, c'est le sujet de l'environnement.
Ah. Alors, dès le début de la création de l'association, on a pris la décision de planter 2 arbres par vol réalisé. Mmh. Alors, dans un premier temps, moi, j'habite Vendeuvre. On a planté des arbres au pied de notre immeuble. Sauf que j'allais pas transformer le pied de l'immeuble en forêt. Donc après, derrière, j'ai pris des contacts avec d'autres communes. Donc aujourd'hui, on a planté des arbres à Blénau avec le centre aéré, à Ludre avec monsieur le maire et puis le conseil municipal des enfants. On a présenté à La Neuville, là encore avec monsieur le maire et puis avec avec des enfants d'école primaire. On a été à Dame-le-Vierre. Et là, à Dame-le-Vierre, il y a quelque chose qui va rebondir grâce à eux aussi. Et puis, voilà. Donc, en gros, les services municipaux plantent, enfin, font les trous, choisissent les arbres en lien avec les élus. Nous, on va arriver avec les enfants. Et là, on va en profiter pour parler d'impact carbone. Alors, on va le dire avec des mots simples. On va parler aussi d'îlots de chaleur. On va toujours avec des mots simples. On va parler de biodiversité avec les abeilles, puisque la plupart des arbres sont des arbres mellifères. Et puis, à partir de là, les enfants vont se mettre à respecter ces arbres. Moi, je l'ai vu sur les arbres qui ont été plantés au pied de mon immeuble, de notre immeuble. Eh ben, il y a eu 3 arbres qui avaient disparu à un moment donné. Dans la demi-heure qui suivait, les enfants me téléphonaient, me disaient « Pascal, ils nous ont volé nos arbres ». Et donc, on a géré avec la ville de Vendeuvre, on a remis des arbres, et on voit bien qu'ils respectent et ils suivent les arbres, ils sont très contents de découvrir tout ce qu'il y a autour de ces arbres.
Et c'est beaucoup de pédagogie, d'ailleurs vous animez des ateliers pédagogiques. Quelles sont les principales leçons que vous espérez transmettre aux participantes, aux participants ?
Eh bien, j'ai envie de dire que la principale leçon, c'est eux qui me la donnent. C'est assez surprenant parce que moi j'ai eu des enfants de CE2 qui m'ont raconté des histoires, qui m'ont raconté des choses que moi en tant qu'adulte je suis capable de traduire avec des mots d'adulte, mais eux ils avaient déjà intégré beaucoup de choses. Je parlais tout à l'heure des îlots de chaleur, mais du fait de recommencer, de remettre sur l'ouvrage quand on a raté. C'est des choses qu'ils ont vraiment intégrés. Quand ils posent des questions, ils sont pas à côté de la plaque, ils posent pas des questions innocentes. Il y a un vrai intérêt dans ce qu'ils réalisent. Mm-hmm. Et ce que je trouve aussi intéressant, si je peux me permettre,
bien sûr.
Quand je travaille avec les conseils municipaux des enfants, souvent ça se fait avec des résidences autonomie. Mm-hmm. Donc on est sur de l'intergénérationnel. Et là, on voit une vraie fusion qui se passe entre nos anciens et puis ces jeunes. Et moi, je me souviens, ça m'a marqué. La première fois, le jeune, il est venu avec son écharpe de mère. Mmh. Et donc, on voit bien là que c'est vraiment important pour eux et qu'ils ont des objectifs et des objectifs plus que louables. Et donc, là, on vient simplement en appui pour pouvoir mettre en œuvre ou imager les décisions qu'ils ont prises dans leurs conseils municipaux.
Et ça tombe bien, j'allais parler de cette question d'intergénérationnel, parce que vous avez aussi des interventions en EHPAD.
Oui, alors ça c'est tout récent. Il y a des animatrices d'EHPAD qui m'ont contacté. Donc moi j'ai eu la même remarque qu'avec les enfants. J'ai dit, moi ce qui me semble important, c'est qu'au moment où nous aurons l'échange, les personnes avec qui nous aurons l'échange, elles se rendent compte de ce qu'elles sont en train de vivre. Et donc, il dit, oui, il y a aucun souci. C'est pareil, moi, je fais pas un vol où je vais avoir un enfant alibi et que c'est un vol pour les parents. Mmh. Je veux que l'enfant, il se rende compte de ce qu'il est en train de vivre. Et donc là, j'ai pu aller sur Étanche Grande et je vais aller à Yutz dans quelques jours pour justement rencontrer des personnes en EHPAD et puis échanger sur... raconter l'histoire de l'aérostation, c'est le même diaporama que ce soit pour des CM2 ou dans un EHPAD, sauf que ce ne sont pas les mêmes mots qu'on utilise.
Et est-ce que Tu peux nous parler un peu des retours que tu as de la part des participants à chaud. Tu disais tout à l'heure, parfois on a les parents qui disent dis merci à Pascal.
Ah, oui.
Est-ce que tu peux développer un peu sur ça, parce que c'est un point intéressant pour nous, quoi.
Oui. Donc on est bien d'accord. Moi, je ne vis pas au quotidien la question du handicap. Moi, j'ai ma vie d'adulte. Voilà. Par contre, quand je reçois des enfants qui sont atteints du cancer, souvent, alors qu'ils ont la possibilité, grâce aux associations, donc Guerrière Loïs et puis Aline Sourire à la Vie ou d'autres associations, de pouvoir faire des choses extraordinaires, rencontrer des grands footballeurs ou de vivre des moments un peu exceptionnels. Et souvent, les parents, par gentillesse, disent « dis merci au monsieur ». Et là, moi, je coupe court, gentiment, je coupe court. J'ai dit non, il n'y a pas de merci à me donner. Par contre, vous pouvez dire merci à votre enfant parce que c'est grâce à lui si vous avez pu faire un vol. Ou grâce à elle si vous avez pu faire un vol. Et là, moi, la seule chose que j'observe, parce que dans ce cas-là, je regarde que l'enfant, je vois l'enfant champion du monde. C'est-à-dire, d'un seul coup, il est quelqu'un d'important à qui on va dire merci. Alors que d'habitude, c'est toujours lui qui dit merci. Et je trouve que c'est bien qu'on puisse, à un moment donné, inverser les choses avec ses enfants, parce qu'ils vivent une vraie bataille au quotidien pour gagner cette bataille contre la maladie.
J'allais te demander, même plus grandement, quel est l'impact social ou même émotionnel que tu espères, que l'association espère transmettre à travers toutes ces activités ?
Alors, moi, ce qui me semble important, c'est... Moi, je ne fais pas de jeunisme, mais je crois en la jeunesse. Et je crois en tous ces enfants que moi, je peux rencontrer, parce que pendant plus de 10 ans, j'ai été président de MJC, et donc sur Vendeuvre. Et donc, aujourd'hui, je rencontre des jeunes qui sont des adultes. Certains sont membres du conseil municipal de Vendeuvre. Et donc, je me dis, voilà, on n'a pas raté. Quand on fait confiance à la jeunesse, la jeunesse, elle fait confiance. Moi, je vois les relations qu'on avait. Avec cet MJC, par exemple, on avait mis en place un atelier chorégraphique où les jeunes venaient faire des ateliers et nous aider pour porter, etc., puisque c'était un atelier chorégraphique avec des personnes en situation de handicap. Et ben moi, ce que je voyais, c'est qu'après, ils partageaient des choses tous les ensemble. Quand je vais dans une résidence autonomie et qu'il y a les jeunes du conseil municipal, et ben ça rayonne des deux côtés. Quand moi j'accueille un jeune qui est entre 16 et 18 ans dans le conseil d'administration pour le préparer à la citoyenneté, c'est aussi un jeune qui est heureux de prendre des décisions et qui va comprendre qu'une décision qu'on prend, ben peut-être qu'il va falloir 3 mois, 6 mois, 1 an pour qu'elle soit mise en œuvre, parce que il faudra trouver les financements, il faudra monter les choses, etc. Et donc c'est tout ça que moi je souhaite revoir avec ces enfants, et pour certains je vais les retrouver dans peu de temps, puisque la semaine prochaine, je serai de nouveau au Jonquille à Vendeuvre, où là, je vais retrouver de nouveau les jeunes du conseil municipal. Et moi, je me fais déjà une fête de ça. Parce que je sais qu'ils vont... La dernière fois, ils m'avaient parlé des fourmis. Moi, je parlais des abeilles, ils me parlaient des fourmis. Et donc, ils m'apprenaient des choses sur les fourmis que moi, je ne connaissais pas. On voit, c'est pas moi qui apporte, c'est eux qui apportent.
Dans ces apports, pour revenir sur les vols, est-ce qu'il y a des mots qui reviennent après les vols ? Je sais pas, des expressions, réflexions. Qu'est-ce qui revient le plus souvent ? Qu'est-ce qu'ils retiennent, j'ai envie de dire même
Alors d'abord, s'ils ont vu des animaux sauvages, alors que soit un lapin, un renard, un sanglier, une biche, un faon, alors là d'abord, c'est juste magique pour eux, parce qu'ils ont rarement l'occasion de les voir courir. Ensuite, ils sont surpris, parce qu'une fois qu'ils ont pris de la hauteur, les voitures ou les camions sont tout petits. Et ça, c'est pas forcément toujours évident pour eux. Et c'est à partir du CE2, en avoir discuté avec les institutrices, à partir du CE2 qui commence à comprendre ces éléments-là, mais on en a qui sont plus petits que le CE2. Et donc, du coup, c'est encore compliqué pour eux. Mais autrement, les mots, c'est magique, c'est joli, c'est doux. C'est doux, un vol. Il n'y a pas d'à-coups, c'est quelque chose de très, très doux. Voilà, c'est des émotions très douces. Et donc, on a un livre d'or. Et ils nous font de magnifiques dessins, parce que certains ne savent pas écrire. Mmh. Et donc, on a de magnifiques dessins, des bons moments. Et puis, il y a même un enfant qui s'est endormi tellement uh-huh. c'est doux. Ouais. Parce qu'il avait eu la veille sa chimio. Mmh. Et donc, il était vraiment très, très fatigué, mais il voulait absolument faire le vol. Et donc, du coup, il s'est endormi. Il avait été réveillé par ses parents. Moi, je n'étais pas dans la nacelle, on me l'a raconté ensuite. Et donc, il était réveillé quand il y avait des animaux. Et donc, il regardait les animaux, c'était magique. Et puis, il était tellement failli qu'il se rendormait. Mmh. Et donc, mais malgré tout se passait bien. Il était content de son vol.
Et ce sont des mots qui font plaisir à entendre. Ça fait plaisir de voir cette association accompagner ses enfants, peut-être vers les sommets de leur vie, comme le dit Corneille dans le morceau qu'on va écouter tout de suite.
J'avais su, avant de quitter, que les allées simples, ça n'existe pas. Si j'avais su, ce n'est pas tous les jours que l'on baptise la marquise de la bière. Si j'avais su, ce n'est pas rien qu'en Paname te dit, tu es ici chez toi. Que le meilleur de ma vie m'attendait en exil, en exil dans tes bras. Yeah. Et je chante les sommets de nos vies, les sommets de nos vies. Oui, je chante les sommets de nos vies, les sommets de nos vies. Oh, si j'avais su. Peu importe, j'ai appris, je guette les heures que me prête le vent. Si j'avais su, peu importe, j'ai tout compris. Depuis qu'elle nous venait, me guette par le temps. Et je chante. Avec l'amour de sa vie, c'est toutes ses victoires en sens interdit. C'est les carrés rouges sur la rue Saint-Denis. Ce sera le retour à Kigali. Hey, c'est le Maghreb au printemps.
Jusqu'à 14h, Dialectique sur RCN.
Et il met le sourire ce titre de Corneille, les sommets de nos vies. On parle de sommets, on parle de toucher les étoiles, de tutoyer les sommets avec Pascal Cochin, président de l'association Andy Blue. On parle de ses vols en montgolfière pour ses enfants, pour les plus grands aussi. Comment Andy Blue collabore avec les établissements de santé et les organisations, par exemple même de soutien de personnes en situation de handicap, globalement, et puis même pour toucher les publics cibles, pour aller voir un peu les personnes concernées?
Alors, par exemple, là, on va avoir la possibilité d'offrir à des enfants qui sont à Mercy. C'est un hôpital qui se trouve du côté de Metz. Et donc... on a été mis en relation avec le Lions Club, et donc il va y avoir une jeune fille de 16 ans avec sa sœur et son papa qui vont faire un vol. Et autrement, on va avoir un groupe d'enfants qui sont aujourd'hui hospitalisés à Mercy. Et on est en train de monter l'opération avec un des pilotes, de manière à ce qu'on puisse décoller à 2 km de là pour ne pas les fatiguer. Et donc, on va leur offrir, enfin, le Lions Club va leur offrir ce vol. Ça, c'est ce qui va se passer dans quelques jours. Mais on a aussi des belles opérations qui se passent, qui vont se passer ou qui se sont passées. On a par exemple, en 2023, sur l'année 2022, on a un couple, une bénévole de l'association, une adhérente de l'association, qui est venue me voir, qui m'a dit « Moi, j'aimerais bien faire quelque chose pour Andy Blue. » Et donc, elle s'est inscrite à un raid en Laponie, avec son mari, et pendant un an, ils se sont entraînés, et donc ils ont communiqué autour de ces moments d'entraînement, et puis ils ont communiqué aussi sur leur raid, et ils ont aussi ouvert une cagnotte, et ils ont récupéré 23 000 euros. Mmh. 23 000 euros, ça a permis la réalisation de 10 vols pour les enfants, et puis de couvrir les frais d'inscription pour le raid. Il y a un autre projet qui existe aussi. On a un ami de la SNCF qui a fait des kilomètres avec son vélo dans le sud de la France pour parler de sa maladie. Et il a récolté de l'argent et il a déjà offert un premier vol et il va offrir deux autres vols à des enfants. Mmh. Et puis on a un projet solidaire là qui est en train de se monter. Je vous ai dit tout à l'heure, on a été planter des arbres à Damleuvière. Et donc, l'un des animateurs des jeunes a pris contact avec moi ces jours derniers. Et le 18 et 19 mai, il va courir avec les baskets solidaires. Il va courir. Et pour à chaque fois qu'il aura réalisé 10 km, j'offrirai un arbre à la ville de Damleuvière. Mais en échange de ça, il dit « Moi, je rends lisible l'association, je mets en lumière l'association et surtout, on va en même temps parler des arbres et la nécessité d'avoir des arbres en ville. » Donc on voit, ce sont des choses qui se montent. Ce qui va se passer à l'EHPAD, c'est une animatrice qui me contacte, qui me dit « Moi, il y a des gens qui rêvent. » Donc c'est des personnes qui ont entre 70 et 80 ans, 85 ans, qui rêvent de faire un vol en montgolfière. Comment on peut le faciliter? Et il n'y a que toi qui peux nous le permettre parce que ta nacelle est accessible. Et ils vont s'allier avec l'EHPAD de Yutz et à deux EHPAD. Ils ont trouvé les financements et là maintenant, ils sont en train de préparer les vols. Mmh. Voilà, c'est aussi simple que ça.
C'est toute une... Moi, je suis... Enfin, là, tu me passionnes par ce que tu dis, hein, Pascal. Enfin, encore une fois, avec l'association, l'engagement est très fort. Est-ce que toi, il y a un moment particulièrement mémorable ou émouvant que tu as vécu en tant que président de Andy Blue?
Alors, c'est pas simple parce que c'est pas toujours des choses très joyeuses, mais... On travaille aujourd'hui avec Guerrière Loïs. Eh ben moi, Guerrière Loïs, la petite Loïs. Alors moi, j'ai pas participé au vol, mais j'ai participé à l'accompagnement. Mmh. Et donc, c'était un petit bout de... une petite gamine qui... je disais tout à l'heure, on prenait l'enfant et puis on tassait pour que ça rentre, pour jouer, parce qu'en fin de compte, ça tasse rien du tout. Mais c'est rigolo, parce qu'en plus de ça, ils ont vraiment la banane à ce moment-là. Et on avait cette petite gamine qui donnait des ordres, qui etc. Aujourd'hui, cette petite gamine, bah, elle n'est plus. Malheureusement, le cancer a gagné sur toute sa bataille. Mais aujourd'hui, donc, sa maman, elle est présidente de l'association Guerrière Loïs. Et il y a plein d'enfants qui aujourd'hui peuvent bénéficier des vols. Et moi, je garde, en fin de compte, le souvenir de cet enfant qui rayonnait. Et je pense que c'est pas très joyeux, je suis désolé, mais vraiment, on a cette image-là de cet enfant rayonnante qui donnait des ordres, qui organisait tout le monde, qui boostait tout le monde, et puis qui fait qu'aujourd'hui, eh ben, on peut faire des vols solidaires avec Andy Blue.
Quelles sont les principales valeurs et convictions qui vous guident dans cette association au quotidien? C'est quoi votre moteur?
Alors, c'est de valoriser les enfants, de les mettre en situation de responsabilité. C'est valeurs très très fortes. Alors, on n'est pas là en train de faire de l'injonction, mais en fin de compte, dans tout ce qui se passe, quand à un moment donné on accueille un jeune dans un conseil d'administration, c'est lui donner la possibilité demain de prendre toute sa place à l'intérieur de la société. Quand à un moment donné on est dans une classe et qu'il y a un enfant qu'on identifie un petit peu recroquevillé sur lui-même, etc., qui va vouloir lever la main, on lui donne la parole, et là, d'un seul coup, il rayonne parce que il connaît quelque chose que les autres ne connaissent pas. Eh ben, on lui donne de l'assurance en lui. Quand il y a un enfant qui est hésitant pour monter dans le ballon et qu'on lui dit mais c'est pas toi, tu montes pas au ciel, c'est le ballon qui monte au ciel. Toi, tu montes dans la montgolfière, et d'un seul coup, l'enfant, il se dit ah mais je vais pouvoir le faire. Et ben c'est toutes ces valeurs là qui alors. Sont pas des... Vous me parlez de valeurs, alors on pourrait parler de valeurs telles que nous on les entend, nous les adultes, mais il faut qu'on se remette à la place, enfin, au niveau d'un enfant. Moi, j'accueille des enfants à partir de l'âge de 5 ans, et donc automatiquement, on peut pas lui demander la même chose qu'à une gamine, enfin, une jeune femme, une jeune fille de 16 ans.
Forcément. Et comment l'association envisage-t-elle d'élargir sa portée, d'atteindre un public plus large, même en termes de partenariat, c'est-à-dire avec des entreprises, avec d'autres organismes?
Alors, aujourd'hui, on a des partenariats réguliers avec des mutuelles. Par exemple, là, on a deux projets qui nous tiennent à cœur. Un projet où, lors de l'intervention dans les écoles, on veut aborder la question du handicap. Moi, ce qui me semblerait intéressant, c'est que je vous ai parlé d'un atelier chorégraphique. Cet atelier, il existe toujours un petit peu. Et donc, il y a quatre femmes qui est aujourd'hui porteuses de handicap qui dansent et qui vont nous faire un morceau de 2 minutes autour de la nacelle. Et donc, on va projeter ça, projeter ce moment de danse, de manière à ce qu'on puisse échanger avec les enfants autour de c'est quoi le handicap, comment on se comporte, qu'est-ce qui va se passer, etc., etc. Un autre projet, c'est un projet autour de l'environnement, où là, j'ai la chance de rencontrer des personnes qui ont de vraies valeurs et qui, en plus de ça, ont de vraies connaissances sur les questions de l'environnement, c'est de les inviter à intervenir pour expliquer, faire des petites bombes à graines, expliquer pourquoi, à un moment donné, c'est important un arbre, mais avec des mots justes. Et donc, voilà, on a ce second projet. Et puis, surtout, aujourd'hui, malheureusement, la liste d'attente est importante. Et un enfant, alors lui, là, l'enfant, il n'attend pas. Mais les parents peuvent attendre 2 ans avant de pouvoir monter dans la montgolfière. C'est très long. Et donc, du coup, on est en train d'essayer de trouver des fonds auprès de grandes entreprises ou d'entreprises plus petites ou auprès des particuliers pour pouvoir acheter une seconde montgolfière. Une seconde et pas une deuxième, parce qu'il n'y en aura pas trois. Mais une seconde montgolfière qui soit aussi accessible mais qui soit plus petite et qui nous permette de diviser par deux ce temps d'attente pour les parents qui restent quand même un temps des fois incertain, parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce sont des enfants qui sont atteints d'une maladie grave et qui, quelquefois, malheureusement, s'en vont avant qu'ils aient eu la possibilité de faire ce vol.
Mais justement, là, pour terminer cette émission, mon cher Pascal, est-ce qu'il y a un message que tu veux transmettre pour nos auditeurs, nos auditrices, ceux qui pourraient être intéressés pour soutenir d'une quelconque manière l'association, ou même pour la rejoindre en tant que bénévole?
Oui. Alors, on a un site internet, alors Handi, HANDI-blue, le tiré du 6, BLUE.fr, c'est notre site internet. Et puis, autrement, sur Hello Asso, qui est un organisme qui récolte des fonds. Et puis, autrement, on a une page Facebook, Handi Blue, et derrière le site, derrière le compte Facebook, c'est moi qui y suis. Donc, faut pas hésiter à me poser des questions. Là, j'ai une personne qui m'a contacté dans le sud de la France pour essayer de voir dans quelles conditions on pouvait voler. On est en train d'essayer de voir si c'est jouable ou pas. C'est-à-dire que je dis pas qu'on répondra à toutes les demandes, parce que on est une association, une petite association, avec une vingtaine de bénévoles et 46 bénévoles et une vingtaine d'adhérents. Mais on fera le maximum, ou pour les réorienter vers notre fédération, ou pour assurer un vol s'il y a possibilité.
Merci beaucoup Pascal, merci d'être venu avec Baby Blue qui a été très sage,
oui, il a été sage.
Tout au long de cette émission. Il y a un mot que tu as beaucoup utilisé, je pense qui résume vraiment ce que vous transmettez à ces enfants à travers les vols, c'est le mot magique.
Ah oui.
Et on va terminer avec un morceau de Coldplay qui s'appelle Magic.
D'accord, merci.
After all that we've been through.